Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'est le quiz biblique en direct. N'hésitez pas à participer avec Jérôme.
On a fait trois bornes, s'il vous plaît, venez pas me parler de bout du monde.
Ça y est, le soir est tombé. Bonjour à tous, amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. C'est le quiz biblique, c'est parti. Bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Voilà le principe. Bonjour l'agneau. Comment y va l'agneau? Un petit peu de harpe. Et c'est parti. Moi aussi, hein, je peux faire des bruitages maintenant. Voilà, chers amis auditeurs, bienvenue dans ce quiz biblique. Comme chaque vendredi, 17h, passé de quelques minutes, nous attendons vos appels pour venir jouer de ce jeu extraordinaire autour de la parole de Dieu, tout simplement, mais aussi de l'histoire. Il y a pas mal de questions d'histoire. J'ai essayé de faire des questions. C'est parti. En attendant le premier appel, nous espérons que vous serez nombreux. Au moins, allez, au moins trois pour jouer à ce quiz biblique. Et je regarde si je peux vous proposer, avant la pause, petite pause musicale pour vous laisser le temps, bien sûr, d'appeler. Voilà, je vais vous proposer donc ce bruit que Sandrine n'a pas, donc j'en profite, parce que moi j'ai des bruits qu'elle n'a pas en régie. C'est celui de la motocyclette, mais oui. Voilà, je crois que nous avons quelqu'un déjà. Enfin déjà, il est temps même, hein, j'ai envie de dire.
Mireille est avec nous.
Mireille. Allô Mireille.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Mireille.
Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors Mireille, est-ce que vous avez toujours les pieds dans la neige?
Non, ça y est, il pleut.
Ah, ça s'est radouci donc.
Oui.
Eh bien c'est super. Eh bien Mireille, c'est super sympa d'avoir appelé, vous êtes la première, enfin je dis la première, en espérant que les autres vont suivre, que nous allons avoir quelques courageux, courageuses aussi, comme Mireille, qui vont appeler pour jouer à ce quiz biblique. Eh bien Mireille, si vous êtes prête, et je rappelle que vous êtes dans le Grand Est, Mireille.
Oui.
Et plus précisément, à...
En Alsace, à Burnot.
Voilà, Burnot.
Le haut.
Le haut. Ah, bah, il y a le bas aussi?
Oui, parce que le bas, ça existe.
Ah, tu vois? Donc, c'est sur une hauteur un peu, peut-être. Ok, j'arrête, je me tais, je ne connais pas la géographie du lieu, c'est pas la peine de... Ah, bah, en tout cas, super Mireille, c'est bien, on va commencer le quiz biblique avec vous, en invitant chaleureusement d'autres auditeurs à ne pas hésiter à appeler, à se joindre à Mireille. Et je crois que nous avons quelqu'un d'ailleurs qui est en train d'appeler. Alors Mireille, en attendant pour cette première question, je vous propose, Mireille, et aussi à mes auditeurs, d'écouter les grillons.
Oui.
Ça s'entend bien, hein?
Oui.
Voilà, c'est fou ce qu'on peut faire avec un téléphone. Alors Mireille, petite question de quiz biblique, on va démarrer, vous êtes prête?
Oui, je suis prête.
Alors la première question, Mireille, quel est le lieu de naissance de David? Dans l'Ancien Testament, ce David qui deviendra d'ailleurs roi d'Israël. Quel est le lieu de naissance de David qui deviendra roi d'Israël? Trois possibilités, Mireille. Jérusalem, Nazareth ou Bethléem. Alors là, si vous vous souvenez de l'histoire aussi de Jésus par rapport à ses généalogies, à sa lignée, ça peut peut-être aider.
Oui.
Jérusalem, Nazareth ou Bethléem pour le lieu de naissance du petit David qui deviendra grand hein, après par la suite.
Oui, oui. Oh là là.
David.
On va dire Bethléem.
Et oui, Mireille. Bethléem, c'est une excellente réponse. Et oui, la lignée davidique, hein, elle vient de Bethléem. Et on dira la même chose pour le Christ, évidemment, puisqu'il est né dans une crèche à Bethléem. Et qu'il est de la même lignée.
Je ne savais pas, j'ai répondu comme ça. Oh, le petit bébé, petit Jésus.
Bah, il a faim, là. Sandrine, il faut faire quelque chose. Est-ce que nous avons... Il n'y a pas eu un appel, non? C'est bon? On continue?
Jean-Mathieu est là aussi.
Ah, Jean-Mathieu, yeah, le retour. Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Ça va Jean-Mathieu?
Ouais, ça va et vous?
Oui. Jean-Mathieu de Villefranche.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors c'est parti, on a commencé donc avec Mireille pour cette première question. Ben, Jean-Mathieu, pour la suivante.
Salut.
Alors, on reste avec David, puisque la première question portait sur David. Alors, traditionnellement, quel livre de la Bible attribue-t-on à David? À quel livre de la Bible de l'Ancien Testament est donc attribué ce livre attribué à David? Trois possibilités, Jean-Mathieu. Le livre de la sagesse, les psaumes ou les livres des rois?
Les psaumes.
Et oui, c'est une très bonne réponse de Jean-Mathieu. Et voilà, c'est un sans faute pour ce départ de Mireille, sans faute de Jean-Mathieu. Voilà, les psaumes attribués à David. Les spécialistes pensent que ce n'est pas l'ensemble des 150 psaumes, mais en tout cas, voilà, composition de nombreux psaumes attribués au roi David, et puis d'autres auteurs aussi. Voilà. Eh bien, nous continuons, nous sommes dans le quiz biblique, amis auditeurs, auditrices. Question suivante pour Sandrine. Non, pour Mireille. C'est pour voir si elle suit. Alors, Mireille. Que signifie le mot « Messie » qui a une origine hébraïque? Que signifie donc ce mot à l'origine, dans sa terminologie hébraïque d'origine? Celui qui est oint, celui qui est vivant, celui qui est le sauveur. Que signifie le mot « Messie »
Celui qui est sauveur.
Celui qui est sauveur pour Mireille. Jean-Mathieu.
C'est loin.
Et oui, c'est loin. Bonne réponse. Oui, c'est celui qui est loin. Et oui, parce que dans le judaïsme, le Messie, c'était celui qui recevait l'onction. Il y avait un rite, le rite de l'onction, réalisé par un prophète de Dieu. Et justement, comme exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons les rois Saül et David, qui ont été oints par Samuel. Alors, il faut savoir aussi que ce rite d'onction, propre aux Hébreux, est à l'origine aussi des rites du Saint-Crème dans notre Église catholique et aussi de la Sainte Ampoule qui servait au sacre des rois de France. Et le mot grec, c'est le mot Christ, Christ qui signifie oint. Voilà. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait, on continue?
On continue.
Question suivante pour Jean-Mathieu. Alors Jean-Mathieu, on va revenir, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, enfin pour ceux qui ont écouté, la dernière fois on était parti sur le déplacement de Jésus avec ses disciples hein, qui venaient du nord, de Césarée, qui descendaient vers Jérusalem. Eh bien on continue donc cette partie-là. Alors la question Jean-Mathieu, quelle prophétie de quel prophète, donc il faut donner le nom du prophète, Jésus accomplit-il en descendant du mont des Oliviers vers Jérusalem? Juché sur un petit âne, alors que la foule l'acclame. Bien sûr, on fait référence à ce que nous fêtons comme le dimanche des rameaux. Il faut imaginer le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est sur une hauteur. Et quand on est en haut du mont des Oliviers, on voit le temple en bas. On voit Jérusalem et le temple. Et Jésus donc descend, monté sur un âne, et la foule l'acclame. Quelle est cette prophétie qui est réalisée par Jésus? Trois possibilités, Jean-Mathieu. Une prophétie d'Isaïe, une prophétie de Daniel ou bien une prophétie de Zacharie.
Voilà. Isaïe, je pense.
Isaïe pour Jean-Mathieu, Mireille. Est-ce...
Zacharie.
Ah oui, c'est Mireille qui a raison, c'est Zacharie, effectivement. Prophétie de Zacharie dans le chapitre 9, au verset 9. Alors je vais vous lire le passage. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Et ça, c'est dans Zacharie.
Ouais, c'est Zacharie, ouais.
Voilà, et donc on revient à cette idée qu'on avait vue la vendredi dernier. Hein, le Christ est venu accomplir les prophéties. Voilà, donc prophétie de Zacharie. Et nous continuons avec Mireille.
Ouais.
Donc à l'époque de Jésus, on sait que la Judée, tout ça, c'était occupé par les Romains. Et sous l'Empire romain, mais cette fois l'Empire romain au sens large, hein, c'est-à-dire vraiment tout le bassin méditerranéen, y compris la Judée, et du temps donc de Jésus, quel était le lieu de culte le plus lucratif, vraiment celui qui rapportait des sommes d'argent énormes? Quel était le lieu de culte le plus lucratif au temps de Jésus dans l'Empire romain? Trois possibilités, Mireille. Alors, le temple de Mitra à Rome. Deuxième possibilité, le temple de Jérusalem. Et troisième possibilité, le temple d'Isis dans la vallée du Nil. Alors, de ces trois lieux de culte, alors évidemment deux lieux de culte païens, hein, de ces trois lieux de culte, lequel était le plus lucratif?
On va dire Jérusalem.
Et bien sûr, Mireille, oui, c'est Jérusalem, c'est le temple de Jérusalem. C'est un truc de fou que j'ai découvert en faisant ce quiz biblique. Le temple de Jérusalem qui était le lieu le plus lucratif de tout l'Empire romain, parce qu'il y avait de nombreuses taxes qui étaient prélevées sur les actes rituels. Et les profits que le temps de Pâques générait étaient impressionnants en raison, bien sûr,
c'est ça, ouais.
En raison de l'affluence.
Il y avait beaucoup de monde qui venait vendre des affaires, là.
Bien sûr, il y avait beaucoup de monde. Et puis quand il fallait sacrifier, il fallait donner de l'argent pour chaque sacrifice.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, il y avait une affluence de milliers de pèlerins qui venaient de toute la diaspora pour ce temps de Pâques, venu pour ce temps fort de l'année. Et il faut savoir qu'il y avait des taxes et des commissions qui étaient prélevées. Ces taxes et ces commissions, elles servaient à l'entretien de la caste des prêtres sadducéens qui étaient au temple. Et on voyait les riches demeures de ces sadducéens qui s'élevaient à l'ouest de l'esplanade, dans ce qui est appelé d'ailleurs aujourd'hui le quartier juif de la vieille ville. Et ces prêtres sadducéens veillaient aussi, bien sûr, à ce qu'une part des recettes énormes soit attribuée à leur protecteur romain.
C'est pour ça que Jésus s'est énervé après.
Et c'est pour ça que c'était aussi un scandale, hein, pour les juifs pieux, bien sûr. Cela, parce que ça correspond à une vie économique où tout tournait autour du temple à Jérusalem à l'époque. Et d'ailleurs, il y a des biblistes qui l'ont appelé le temple État, voire le temple banque, hein, presque, on pourrait même dire, en exagérant un petit peu, mais à peine, puisque tout tournait autour de ça. Et les grands bénéficiaires, c'était les prêtres sadducéens. Et évidemment, ils ont reversé une partie à leurs occupants romains, donc c'était... Ça pouvait être extrêmement choquant, bien sûr, pour des juifs pieux. Hein.
Bon, tant que Jésus s'est énervé après.
Voilà, et justement, on va y venir dans les questions suivantes. Mireille, très bonne réponse, c'est le temple de Jérusalem.
Merci, on apprend des choses.
Hein. Oh là là. Question suivante pour Jean-Mathieu.
Ouais.
Alors, Jean-Mathieu, justement, quel autre prophète de l'Ancien Testament s'était indigné avant Jésus, bien avant Jésus, de ce déploiement de richesses dans le temple devant l'Éternel, puisque quand même le temple, c'est pour Yahvé, c'est Yahvé, c'est la présence de Yahvé matérialisée par ce temple. Quel autre prophète donc s'était vraiment scandalisé de ce déploiement de richesses? Trois possibilités, Jean-Mathieu, Jérémie, Osée ou Michée. Bon, elle n'est pas facile, mais...
Michée.
Pour Jean-Mathieu, est-ce que Mireille...
Jérémie.
Oui, c'est Jérémie. C'est une bonne réponse. Bon, elle n'est pas facile, hein, je reconnais. Mais bon, ça permet d'apprendre en même temps.
Ben oui.
Jérémie, c'est au chapitre 7, verset 11. Et je vous cite le passage. « Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé... » On peut imaginer que c'est Yahvé qui parle. Hein, « Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé... » La prenez-vous donc pour une caverne de bandits?
Ouais.
Dans Jérémie. Donc on voit Jésus se situe toujours dans la lignée des prophéties, hein, toujours. Et j'ai retrouvé un autre passage également dans Zacharie, au chapitre 14, verset 21. « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur, le Tout-Puissant, en ce jour-là. » Voilà, les marchands, l'argent, c'est une vraie maison de commerce, hein, un vrai trafic, ce temple. Et je pense, on peut peut-être dire, sans certitude, mais on peut peut-être dire qu'au temps de Jésus, c'était devenu même encore plus énorme qu'au temps des prophètes, hein, quelques centaines d'années auparavant. Voilà, donc pour cette question, on continue avec Mireille. C'est la question détente, Mireille.
On y va.
La question détente, si je puis dire. Grâce, je remercie Raymond, parce que c'est Raymond qui en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai cette question. C'est-à-dire, elle est toute simple, toute courte. Comment appelle-t-on...
Alors là, il a intérêt que je trouve, hein,
Raymond. Sinon, Raymond aura affaire à Mireille. Voilà, c'est dit. Alors, comment appelle-t-on les habitants de Jérusalem ? Comment appelle-t-on les habitants de Jérusalem ? Trois possibilités. Les Jérusalémiens, les Hiérosolomitains ou les Salésiens. Oula. Comment appelle-t-on les habitants de Jérusalem ? Je répète, hein, les Jérusalémiens, j'arrive même pas à le dire correctement, les Hiérosolomitains ou les Salésiens ?
Les Salésiens.
Les Salésiens pour Mireille. Et pour Jean-Mathieu.
Bah, je dirais le premier, moi.
Alors, le premier, Jérusalémien. Eh bien, c'est ni le premier ni le troisième, c'est le deuxième. C'est les Hiérosolomitains.
Alors, Raymond, si tu es à l'écoute.
Alors, du coup, comme cette question, c'est Raymond l'a proposé, effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de recherches. Raymond qui s'expliquera avec Mireille, hein, si Raymond est à l'écoute. Il verra avec Mireille directement. Oui, Hiérosolomitains, je crois que hiéro, d'ailleurs, ça veut dire sacré. Et voilà, donc, mais à vérifier. En tout cas, c'est bien comme ça qu'on appelle les habitants de Jérusalem. Il y a d'autres noms également en hébreu, hein, mais en tout cas, c'est celui-là, il est bon, vous pouvez vérifier. Hiérosolomitains, et la ville, d'ailleurs, elle-même s'appelle Hiérosolymine.
Ah ça, on ne nous l'a pas dit. Ça fait pas longtemps que j'étais... En Terre-Sainte, et puis ça, j'ai pas appris.
Oui, ah bah oui, mais il y a tellement de choses aussi en Terre-Sainte.
Le guide, il a oublié.
Ah bah le guide, je crois qu'il y a tellement de choses à découvrir et à apprendre là-bas que, voilà, on peut pas tout voir. Hein.
Oui.
Eh bien, il y a Zoro qui va pas tarder. Alors, on continue avec Jean-Mathieu. Jean-Mathieu.
Oui.
Alors justement, on va rester dans le temple. Cette fois, on s'approche. Hein. Jésus, cette fois, il est à Jérusalem. Et la question, c'est quel est le but improbable, hein, le but pour lequel Jésus va renverser les étals, hein, des changeurs de monnaie dans le temple. Il va dénoncer toutes les activités commerciales dans ce lieu saint. Pourquoi ? Trois possibilités, Jean-Mathieu. Alors, premièrement, parce qu'il souhaite attirer l'attention sur son groupe. Deuxième possibilité, parce qu'il dénonce le royaume de l'argent. Troisième possibilité, parce qu'il annonce l'accomplissement des prophéties.
Je crois que c'est l'argent.
L'argent pour Jean-Mathieu. Et si nous interrogions Mireille ?
Non, c'est pour la prophétie, détruisez ce temple en 3 jours.
Et oui, c'est l'accomplissement des prophéties, oui Mireille, c'est ça. La réponse, alors, ça ne veut pas dire qu'il dénonce pas le royaume de l'argent, mais en fait Jésus n'a rien a priori, je ne pense pas, dans les Écritures, contre l'argent en lui-même. C'est simplement l'argent à cet endroit précis, qui est le temple de Yahvé. C'est là le problème. Mais il annonce effectivement la réponse, c'est l'accomplissement des prophéties. On pense que Jésus veut simplement lancer un message, donner quoi, un signe, que la corruption qui est à l'œuvre dans le temple va bientôt cesser. Que la vision prophétique est sur le point de s'accomplir. Et on trouve dans Marc, alors l'évangile de Marc, au chapitre 11 et verset 16, Marc qui annonce même que Jésus ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Alors certains biblistes sont imaginés que Jésus avait posté quelques-uns de ces solides montagnards galiléens devant les portes secondaires par lesquelles les bêtes et les marchandises étaient convoyées. Il y a un moment, Jésus, qui n'est pas tout seul pour le faire, a priori, hein, va vraiment arrêter toutes les transactions à l'intérieur du parvis, du temple. Voilà l'accomplissement des prophéties, la fin de la corruption, puisque le royaume de Dieu est imminent. Donc c'en est fini de faire une de cette maison.
Ouais, c'est ça qu'il disait, Jésus disait, je vais t'emmener mon père,
oui.
Une maison de prière.
Oui.
C'est pas un marchand de, pour vendre des trucs, c'est une maison de prière.
Oui. Voilà, c'est un lieu de prière, c'est le lieu le plus sacré hein, pour l'histoire du peuple hébreu, et c'est devenu une grosse maison de commerce en fait. Voilà ce qui choque tous les Hébreux pieux de la région, de Jérusalem. Eh bien, nous continuons avec Mireille.
Oui.
Alors, Mireille, pourquoi les autorités du temple, on reste toujours dans ce même récit, hein, pourquoi les autorités du temple n'interviennent-elles pas pendant le siège, hein, on peut parler de siège entre guillemets, hein, le siège du temple par Jésus et ceux qui suivent Jésus, pourquoi les autorités n'interviennent-elles pas alors que Jésus, on l'a vu hein, juste avant, il occupe carrément la place, hein, il interdit presque toutes les transactions. Alors, trois possibilités, Mireille, pour cette raison de la non-intervention des autorités. Premièrement, parce que l'information ne leur parvient que tardivement. Deuxième possibilité, parce qu'une foule nombreuse écoute les enseignements du Christ et soutient son action. Troisième possibilité, parce qu'ils approuvent secrètement l'action qui est menée. Alors, pourquoi les autorités du temple n'interviennent-elles pas pendant cette occupation par Jésus et ses disciples ? Trois possibilités, parce que l'information ne parvient que tardivement à ces autorités, ou alors parce qu'une foule nombreuse écoute les enseignements et soutient l'action de Jésus, ou parce qu'ils approuvent secrètement l'action menée.
Ils approuvent secrètement.
Alors il faut prendre le plus naturel. Hein. Qu'est-ce qui vient plus naturellement à l'esprit ?
Ils approuvent secrètement.
Ils approuvent secrètement pour Mireille. Jean-Mathieu.
Je dirais le deuxième.
Parce qu'une foule nombreuse écoute ses enseignements.
Ouais.
Eh bien, c'est la bonne réponse, Jean-Mathieu.
Oh.
Oui, c'est celle-là la réponse. Et oui, en fait, ils n'interviennent pas parce que ben, les autorités sacerdotales, elles craignent les réactions de la foule. Qu'on entend. Oui, les autorités sacerdotales craignent les réactions de la foule, cette foule qui s'est amassée en grand nombre. Et qui écoute Jésus, parce que Jésus ne se contente pas de bloquer les portes, etc., machin, c'est qu'il enseigne. Et tout le monde écoute. Alors, ce n'est quand même pas une émeute, hein, et les autorités du temple ne veulent pas non plus faire appel aux Romains. Pourquoi ? Parce que le gouverneur Ponce Pilate, bien connu, est connu justement pour la brutalité de ses méthodes et son mépris des Juifs. Donc disons, si on fait intervenir Pilate, ça va dégénérer, ça va être encore pire. Donc voilà la raison pour laquelle ces autorités n'interviennent pas. Jésus est écouté, et en grand nombre. Ah, le chant du coq. C'est pas le matin plutôt ? Ah ben non, le coq, on s'en fiche. Voilà, nous continuons avec... Voilà, on s'en sort plus, les bruits partout. Alors, Jean-Mathieu.
Oui.
Jésus est toujours... on est toujours avec le temple. Jésus qui a lancé donc cette action hein, dans le temple. Mais d'après les évangiles, dans quelle ville proche Jésus réside-t-il avec ses disciples ? Parce qu'on sait que Jésus, il était juste auparavant, on avait raconté ça la semaine dernière, il était en Galilée, notamment à Capharnaüm, près du lac, etc. Il est descendu à Jérusalem. Mais où habite-t-il avec ses disciples ? Car il ne se trouve pas à Jérusalem même. Alors, trois possibilités, Jean-Mathieu. Béthanie, Bethléem ou Bethphagée ?
À Béthanie.
Et oui, Jean-Mathieu, c'est une bonne réponse. Oui, Béthanie, c'est pas loin. Alors, on trouve la confirmation hein, dans Matthieu, chapitre 21, verset 17. Béthanie, c'est le lieu où Jésus se rassemble avec ses amis. Et c'est un village de Judée qui est pas très loin, puisqu'on dit 15 stades, ça fait à peu près un peu moins de 3 km de Jérusalem.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc on le fait à pied, hein, sans problème. Ça fait 2,7 km à peu près. Et puis, on sait qu'il faut passer par le Mont des Oliviers pour aller à Béthanie. Et puis, ouais. Et puis on se souvient que Béthanie, c'est la maison de Marthe et Marie.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et là où se passera aussi la résurrection de Lazare, l'onction de Béthanie, Simon le lépreux.
Elle est venue le voir, l'autre. Elle dit « tu as été sauvé nos frères ».
Oui, ça c'est Marthe qui vient voir Jésus en premier, car Lazare est dans la tombe depuis quelques jours.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors ça, c'est Béthanie. Effectivement, Béthanie, c'était un lieu de, on va dire, de halte important, hein, pour Jésus quand il venait dans la région de Jérusalem. Alors Bethphagée, j'ai cité Bethphagée, mais c'est pas loin de Béthanie, c'est juste à côté. Mais bon, là, c'était Béthanie où Jésus était avec ses disciples. Et c'est par là qu'on arrive quand on vient du nord, hein, de Jéricho. Donc quand Jésus est venu avec ses disciples, il est passé par Jéricho. On s'en souvient, il a rencontré Zachée. Il est venu de Jéricho. Il est descendu vers Jérusalem, et avant d'arriver à Jérusalem et le Mont des Oliviers, il y a juste Béthanie et Bethphagée, pas loin non plus. Quant à Bethléem, c'est plus loin. Bethléem, c'est plus loin vers le sud. Bonne réponse de Jean-Mathieu. Nous continuons avec Mireille.
Je vous écoute.
Alors, il y a une question qui n'a pas grand-chose à voir, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on la posera plus tard. Alors, Mireille, dans l'évangile de Jean, combien d'hommes environ, avec Judas bien sûr à leur tête, viennent-ils arrêter Jésus au jardin de Gethsémani ? Combien d'hommes environ se présentent pour l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani, évidemment mené et dirigé par Judas ? 3 possibilités, Mireille. Une trentaine, une centaine ou plusieurs centaines ?
Plusieurs centaines.
Et c'est une excellente réponse, Mireille. Vous imaginez ? Tout ça de nuit. Jean, vous pouvez vérifier dans Jean 18.
Alors, plusieurs centaines, ouais.
Plusieurs centaines. Alors Jean lui-même, il va loin. Lui, il parle, Jean, de 600 hommes. Alors le mot grec, hein, qui est utilisé, qui speran, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement, mais speran dans le grec, hein, du texte, ça désigne en général une cohorte romaine. Et une cohorte romaine, c'est toujours formé de 600 soldats. Mais ce mot peut aussi désigner un détachement. C'est une formation un peu plus réduite, mais c'est toujours, c'est toujours au moins 200 hommes. Donc au moins 200.
Et on pourra arrêter les personnes, bonjour.
c'est pas mal quand même, hein. Alors à ces soldats, il faut ajouter quelques gardes, hein, détachés par les grands prêtres. Et puis quelques pharisiens. Donc, en réalité, c'est pas une petite troupe, hein, qui pénètre cette nuit-là dans le jardin de Gethsémani. Alors, il faut ajouter également que cette troupe, elle a été suscitée par la haine, hein, des prêtres du temple qui veulent se débarrasser de Jésus, hein, qui veulent l'arrêter. Mais il faut ajouter qu'il s'agit avant tout d'une opération romaine, parce que sinon il n'y aurait pas les soldats romains, et que c'est non nécessairement, ils ont dû demander l'autorisation au gouverneur Ponce Pilate en personne. Et on imagine donc que les grands prêtres ont dû soumettre leur plan à Pilate pour une arrestation discrète, qui ne provoque pas d'émeute en pleine fête de Pâques, donc la nuit, et donc Pilate envoie des troupes importantes afin de s'assurer que l'arrestation ne dégénère pas.
D'accord.
Et puis, en plus, les autorités du temple savaient que Jésus avait beaucoup de personnes qui le suivaient, de disciples, de partisans, et donc il fallait mieux prendre 2 précautions plutôt qu'une, donc c'est pour ça qu'ils envoient toute cette cohorte de nuit pour l'arrêter. Il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, Jean-Mathieu,
oui.
On est toujours un peu dans ce récit-là. À Jérusalem, parmi les 3 groupes que je vais citer, lesquels étaient les ennemis les plus acharnés de Jésus ? Lesquels étaient vraiment ceux qui en voulaient le plus à Jésus ? 3 possibilités, Jean-Mathieu. Les pharisiens, les sadducéens ou les romains ? Les pharisiens, les Sadducéens ou les Romains?
Ben, les Romains, je pense.
Les Romains pour Jean-Mathieu. Et Mireille?
Sadducéens.
Les Sadducéens?
Oui.
Et c'est la bonne réponse.
Ah.
Oui, ce sont les Sadducéens. C'est l'aristocratie sadducéenne du Temple. Il y avait quelques pharisiens aussi qui étaient ennemis de Jésus, mais surtout les Sadducéens. Alors, on a des sources historiques, hein, c'est l'historien.
Mais calée, là. Elle est calée. Hein.
Elle est calée, Mireille. Elle est calée. À force de déblayer la neige, on...
J'ai l'impression qu'elle a bien étudié son...
Ah oui, oui.
Le catéchisme.
Elle a bien étudié.
Ouais, c'est ça.
Et puis, Mireille, vous êtes allée en Terre Sainte aussi, je crois, non?
Oui, j'étais allée en Terre Sainte déjà.
Et oui, tout ça, ça joue.
Oui.
Et donc oui, on a des sources historiques, hein, c'est l'historien Flavius Joseph, du temps de Jésus, disait que dans les affaires judiciaires, hein, donc il y avait des conflits d'intérêts, des conflits judiciaires, eh bien les Sadducéens étaient plus impitoyables que tous les autres judéens. C'était les plus impitoyables. Il faut savoir aussi qu'au sein du reste de la population, Jésus est très aimé, il est respecté, et il compte quand même des amis, jusque dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le grand conseil législatif de la nation. On sait aussi que des pharisiens étaient disciples en secret. Et c'est pour ça donc que, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour que cette arrestation va se faire de façon furtive et nocturne. Et je rajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si les initiateurs de cette arrestation, de cette condamnation sont judéens, bien sûr, les Romains aussi portent de bout en bout la responsabilité de la mort de Jésus. Hein. Bien sûr, il fallait toujours l'accord des Romains, bien entendu, pour toutes ces manœuvres. Eh bien, nous arrivons bientôt au terme. Sandrine, qu'est-ce qu'on fait? Encore une question, me dit Sandrine. Alors, Mireille, Jean-Mathieu, puisque c'est la dernière, je vous la pose à tous les deux.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez entendu parler de Joseph Caïphe? Joseph Caïphe, il est officiellement le grand prêtre du Temple, donc le chef des Sadducéens. Il est le grand prêtre du temple au moment de l'arrestation de Jésus. Mais en réalité, qui exerçait encore l'autorité dans le dos de Caïphe, hein, ou avec l'accord de Caïphe, mais il y avait vraiment quelqu'un qui exerçait vraiment l'autorité dans cette fonction de grand prêtre. Qui est-il? Trois possibilités. Son beau-père, le beau-père de Joseph Caïphe, le gouverneur romain, ou le Sanhédrin, l'assemblée dont on a parlé tout à l'heure. Le gouverneur romain. Le Ponce Pilate.
Le beau-père.
Le beau-père pour Mireille. Et c'est le beau-père. C'est le beau-père. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, le beau-père de Joseph Caïphe? Est-ce que vous en souvenez? C'est Anne.
Anne, oui.
Anne, beau-père de Caïphe, qui avait été déjà grand prêtre auparavant, entre l'an 6 et l'an 15. Caïphe a été nommé en 18. Et avant Caïphe, Valérius, alors c'est les Romains qui les nommaient bien sûr, hein, Valérius Gratus, qui était à l'époque procurateur avant Ponce Pilate, avait révoqué et nommé quatre grands prêtres qui restèrent en service à peine un an. Et on sait que Anne n'avait rien perdu de son autorité depuis son remplacement. Il faut savoir aussi que cinq des fils d'Anne seront d'ailleurs désignés grands prêtres par la suite. Donc un grand pouvoir dynastique maintenu si longtemps signifie un degré important d'influence politique, hein, pour Anne, et une capacité aussi à s'acheter les faveurs des Romains. Romains qui choisissaient toujours avec soin ceux qui devaient faire régner l'ordre au Temple. Voilà, c'était vraiment une belle collaboration, hein, entre ces autorités sacerdotales du Temple et le pouvoir romain en place. Voilà, on a fait un peu d'histoire, hein, je suis désolé, c'était un quiz biblique un peu plus historique. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Mathieu, merci Mireille.
Merci
à vous.
D'être des fidèles merci. Participants. Et à très bientôt. Et on se retrouvera vendredi prochain, même heure, 17h.
Merci
à tous les deux. Soyez bénis. Au revoir.
Ouais, aussi.
Au revoir. Merci.
Et merci Sandrine.
Merci Jérôme.